Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire Savitri de Sri Aurobindo, le livre 6, le livre du destin. Alors, je continue le mot du destin qui est le chant 1. Chant 1, livre 6. Alors, il y a un nota bene à l'entrée du livre par Satprem. Narad, le chantre céleste, le voyant, occupe une place toute spéciale dans la tradition indienne. C'est un homme divinisé, l'annonciateur ou le précurseur de l'homme divin à venir. Il n'est pas né Dieu, mais l'homme devenu Dieu. Il a pris rang parmi les immortels et il peut à volonté se déplacer parmi les trois mondes, sur les sommets supraconscients et à travers notre monde physique et mortel et les mondes subconscients ou inconscients qui recèlent les clés de notre avenir. Il connaît donc les trois temps, passé, présent et à venir, et c'est lui qui annonce le destin de Savitri et de Satyavan. Par de silencieux confins à la frontière du plan mortel, traversant de vastes étendues de paix lumineuse, Narad, le sage céleste du paradis, descendant, chantant dans l'immensité radieuse de l'air. Attiré par l'été doré de la terre, posé sous lui, comme une houle ardente lancée sur quelque table des dieux, roulé et mu, comme par une invisible main, pour attraper la chaleur et la flamme d'un petit soleil. Il quittait les heureux chemins de l'immortel, vers un monde de labeur et de quête et de chagrin et d'espoir, vers ces lieux où la vie et la mort jouent à la bascule. À travers les frontières impalpables d'un espace d'âme, il a passé du monde mental au monde des choses matérielles. Parmi les inventions du moi inconscient et les rouages d'une force somnambule aveugle, sous lui brûlait une myriade de soleils tournoyants. Il a percé des ondes de l'océan éthéré, un air originel a porté la joie d'un premier toucher. Un esprit secret prenait son formidable souffle, contractant et dilatant cet énorme univers. Dans sa grandiose révolution à travers le vide, la puissance secrète du feu créateur déployait son triple pouvoir constructeur et créateur des formes. Sa danse ondulatoire qui tisse d'infinitésimales étincelles, ces nébuleuses qui bâtissent la forme et la masse, la base magique et la trame d'un monde, sa radiance qui éclate dans la lumière des étoiles. Narad sentait la sève de la vie, la sève de la mort. Il s'enfonçait dans la communion dense de la matière solide, dans l'obscure unité de ses formes. Il partager l'identité d'un esprit muet. Et voici qu'il voyait l'être cosmique et la tâche. Ses yeux mesuraient les espaces, sondaient les abîmes. Son regard intérieur suivait les mouvements de l'âme. Il voyait l'éternel labeur des dieux. Il absorbait la vie des bêtes et des hommes. Alors, le ton d'un chanteur a changé. Une émotion et un émerveillement faisaient vibrer sa voix. Il ne chantait plus la lumière qui jamais ne pâlit, ni l'unité, ni la pure félicité immortelle. Il ne chantait plus le cœur impérissable de l'amour. Son chant était un hymne de l'ignorance et du destin. Il chantait le nom de Vishnu. Le dieu Vishnu, Nota Bene, c'est le dieu créateur, mais le conservateur. Et la naissance, alors il chantait le nom de Vishnu et la naissance et la joie et la passion du monde mystique. Et comment les étoiles furent créées et la vie commença et les terres silencieuses s'animèrent avec le battement d'une âme. Il chantait l'inconscient et son moi secret, son pouvoir tout-puissant sans savoir ce qu'il fait, qui modèle tout sans vouloir, sans penser, ni sentir son mystère occulte, infaillible et aveugle, et les ténèbres qui ont soif de l'éternelle lumière, et l'amour qui couve au fond des sombres abîmes, attendant une réponse des cœurs humains, et la mort qui grimpe vers l'immortalité. Il chantait la vérité qui crie au fond de la nuit aveugle, et la mer de sagesse cachée dans la poitrine de la nature, et l'idée qui œuvre derrière cette nature muette et le miracle de ses mains transmutatrices. Il chantait la vie qui sommeille dans la pierre et dans le soleil, et le mental subliminal dans la vie sans mental, et la conscience qui s'éveille dans les bêtes et dans les hommes. Il chantait la gloire et la merveille qui doivent naître, et le suprême qui arrache enfin son voile. Il chantait le corps devenu divin et la vie devenue félicité, l'immortelle tendresse qui embrasse l'immortel pouvoir, le cœur qui sent directement les cœurs, la pensée qui voit directement les pensées, et le délice quand toutes les barrières tombent, et la transfiguration et l'extase. Alors, tandis qu'il chantait, les démons se mirent à pleurer de joie, voyant venir la fin de leur longue et terrible tâche et la défaite qu'ils avaient en vain espérée, et l'heureuse délivrance d'un destin funeste qu'ils avaient eux-mêmes choisi, et le retour en l'un d'où ils étaient venus. Celui-là qui avait conquis le rang des immortels, l'homme divin, Narad, descendait sur la terre des hommes. Comme un éclair fulgurant, une gloire est tombée. Jusqu'au toucher, le sage roi Swapati, dans sa contemplation, Ouvrant les yeux, il vit étrangement enluminée une sortie de nuée lumineuse. Cette face, ce masque de beauté et de joie antique, apparut en plein jour et descendu à Madra, en son palais fleuri de pierres délicates. Le sage roi méditatif l'accueillit en bienvenue. À ses côtés siégeait une créature de beauté, passionnée et posée, comme une flamme d'aspiration sacrificielle, montrant dans l'air lumineux depuis son siège terrestre un front de reine, la mère humaine de Savitri. Là, une heure durant, insensibles aux assauts de la terre, ils ont laissé les soucis de la vie ordinaire et coulèrent, emportés par le haut rythme de cette voix, tandis que le chant scandé du visionnaire céleste disait le labeur et la peine des hommes et la tâche des dieux, le but qu'ils poursuivent sur la terre et la joie qui palpite derrière le miracle et le mystère de la douleur. Ils chantaient le cœur de lotus de l'amour et ses mille semences de vérité lumineuse qui dorment et vibrent derrière le voile des apparences. À chaque touche, il tressaille, cherche à s'éveiller, et un jour il entendra une voix ravie et fleurira dans le jardin de l'épouse. Lorsqu'elle sera saisie et découverte par son Seigneur, un puissant frisson d'extase s'est glissé dans le cœur profond de l'univers. L'épouse s'est éveillée du sommeil de sa matière, des rêves de son mental. Elle a vu la face du Dieu sans voile. À l'instant même où il chantait, tandis que ce ravissement se glissait dans le temps terrestre, saisissant même les cieux. Savitri est arrivée d'un impérieux galop, pareil à celui de son cœur, rapide en hâte. Ses paradieux traversèrent les corridors du palais. Transformée par le halo de son amour, elle arrivait, un bonheur émerveillé dans son regard insondable. Ses yeux étaient pleins d'une éblouissante buée de joie, comme l'une qui vient de quelques ambassades des cieux pour remplir la haute mission de son cœur, comme l'une qui apporte le contentement des dieux à son amour de toute éternité. Elle était debout devant le trône de son puissant Père. Et passionnée de la beauté découverte sur la terre, transformée et neuve dans la miraculeuse lumière de son cœur, elle vit, telle une rose émerveillée qui adore la douceur de feu du Fils des cieux, Narad. Il a jeté sur elle son immense regard immortel. Sa vision intérieure l'enveloppait de lumière. Mais retenant sa connaissance derrière ses lèvres immortelles, il s'est exclamé : quelle est donc cette épouse qui vient, cette fille du feu ? Car autour de sa tête illuminée, un grand cortège d'hyménée verse un torrent de lumière et des étincelles de tous côtés. De quelle verte clairière miroitante, cachée dans le silence des rosées ou de quelques vagues rivages ombreux perlés de lune. Apportes-tu cette gloire qui enchante tes yeux? La terre à maintes étendues dorées et des collines ténébreuses qui enveloppent leurs crêtes fantômes rêveuses dans la nuit et gardées dans la joie claustrale des forêts. Des lacs secrets descendent et s'enlisent dans la félicité, saisies au retour par les mains assoiffées et la passion murmurante du torrent qui appelle. Mais dans la pure embrasse de ce murmure aux lèvres fraîches qui perdent leur âme sur un lit de roseaux tremblants. Et tout cela recèle des présences mystérieuses qui laissent sentir la félicité de quelque esprit mortel. Et tout cela laisse perler la pelle de joie du cœur terrestre. As-tu, ces journées-là, émerveillé, subi un regard inconnu ou entendu une voix qui a contraint ton âme à écouter et ta vie à faire couler son ivresse? Ou si j'en crois ma pensée, voyant l'éclat de tes yeux, je dirais, nulle coupe terrestre ne t'a enivré. Mais quand tu as traversé le rideau d'azur du matin, sur un seuil magique tu as été enveloppé, des mondes trop brillants pour les yeux des hommes, pressés par l'assaut des voix de délices et saisis par le charme des ramilles ensoleillées dans les bois féeriques. Poussés sur les pentes rayonnantes des monts de Gandhamadan où rôdent les apsaras. Ton corps a partagé les jeux que nul n'a vus. Dans les pays des dieux, tes pas humains ont vagabondé. Ta poitrine mortelle a tressailli d'une parole divine. Et ton âme a répondu à un mot inconnu. Quel pas des dieux, quels flûtes enchantées des cieux ont soufflé cette haute mélodie qui t'entoure? De près, de loin, venu dans l'air doux, en fait, que tu entends encore, surprise? Ils ont baigné ton silence d'un étrange fruit d'extase vermeille, et tu as posé tes pas sur les pics vaporeux d'une lune de félicité. Ô toi, ailée de lumière, révèle d'où tu t'es envolé teinté de bonheur en hâte sur cette terre embrouillée. Ton corps à l'unisson du cri printanier de l'oiseau. Les roses de tes mains vides sont pleines de ta propre beauté seulement et de l'ivresse d'une embrasse souvenue en toi rayonne une jarre céleste. Ton cœur de miel puissant et résolu déborde d'un vin de nectar nouveau et suave. Tu n'as jamais parlé au roi de la douleur. La musique périlleuse de la vie sonne encore à tes oreilles. Mélodieuse au loin, rapide, grandiose, tel est le chant du centaure. Eau douce comme la cascade des eaux par les collines, ou puissante comme un grand rythme de tous les vents. Comme la lune dorée, tu vis dans son extase intérieure. comme la lune dorée, tu vis dans ton extase intérieure. Tu viens telle la biche argentée parmi les bocages, fleurie de tes rêves vermeils et des boutons de corail, où tu voles comme la déesse du vent par la ramure, où tu vagabondes aux tourterelles, aux ailes de neige et aux yeux de rubis. Papillonnant parmi les buissons de tes pures délices dans la beauté de ton âme, à jamais blessée. Ces paroles sont seulement des images pour tes yeux de la terre, mais aussi la véridique vérité de ce qui dort en toi. Car tu es sœur des dieux en ton esprit, et ton corps terrestre charme les yeux, mais ta joie est la race des enfants du ciel. Ô toi qui es venu dans ce grand monde périlleux, quand tu regardes maintenant par la seule splendeur de tes rêves, où l'amour et la beauté ne peuvent guère vivre en sécurité. Ton être est dangereusement grand. Ton âme a vécu solidement dans la maison dorée de ta pensée. Murée dans la sécurité de tes rêves, sur les hauteurs du bonheur, tu laisses dormir le destin qui invisiblement poursuit la route inconsciente des hommes. Si ton cœur a pu vivre cloîtré dans l'idéal doré, puisse ton réveil être aussi haut et aussi heureux, si tant que le destin puisse à jamais rester endormi. Il a parlé, mais caché sa connaissance derrière les mots, comme un nuage joue avec le rire coloré de l'éclair, mais cache encore le tonnerre dans son cœur. Narad laissait seulement échapper des images brillantes, comme une musique chatoyante ses paroles, voiler ses pensées dans sa pitié pour les immortels. Il leur disait seulement la beauté de vivre et le bonheur présent, comme un vent caresse la brûlure de l'été. Le reste, il le scellait dans l'omniscience de son esprit. Pour ceux qui prêtaient l'oreille à sa voix céleste, le voile que jette la pitié des cieux sur la douleur à venir, le décret de l'immortel semblait être de joie sans fin. Mais le roi Swapati répondit au voyant. Son esprit à l'écoute avait noté la fin ambiguë, senti une ombre funeste derrière les mots, mais calme comme l'un qui fait toujours face au destin, ici-bas parmi les détours dangereux de la vie terrestre, il répondit à cette pensée discrète par des paroles mesurées. Ô sage immortel, qui connais toutes choses ici-bas, si je pouvais lire à la lueur de mes propres souhaits, derrière le bouclier sculpté d'images symboliques que tu as jeté devant ta pensée céleste, je verrais peut-être la marche d'une jeune vie divine qui commence heureusement sur la terre avec des yeux de lumière. Née à la frontière des deux mondes, merveilleux entre l'inconnaissable et l'au-delà, elle jette la flamme des symboles de l'infini et vit dans la grande lumière des soleils intérieurs. car cette jeune vie a lu et brisé les sceaux secrets. Elle a bu aux fontaines de joie de l'immortel. Elle a regardé par les barreaux dorés des cieux. Elle a pénétré le mystère qui aspire. Elle voit par-delà les choses ordinaires de la terre et communie avec les pouvoirs qui bâtissent les mondes, jusqu'au jour où, par les portes étincelantes et les rues mystiques de la cité de perles et de lapis-lazuli, des hauts faits mettent en branle la marche des dieux. Bien qu'à certaines haltes, dans nos vies humaines, la terre garde quelques brèves heures parfaites pour l'homme. Les pas inconscients du temps peuvent sembler un éternel moment vécu par l'immortel. Rares sont ses contacts dans le monde des mortels. Il n'est guère une âme et un corps nés ici, dans la tempête et le mouvement laborieux des étoiles, qui puisse garder la note paradisiaque dans sa vie et répéter le rythme et la mélodie aux maintes tonalités qui bat inlassablement dans l'air ravi le chant surpris qui fait ondoyer la danse de l'apsara quand elle glisse radieuse comme un nuage de lumière, une vague de joie sur le sol d'opale des cieux. Regarde sa vitrine, cette coulée de lumière et d'amour dans une image, cette ode lyrique de l'ardeur des dieux, parfaitement rythmée, cet ondoiement d'or sculpté, son corps comme un pichet débordant de délices pétris dans une splendeur de bronze doré, comme pour saisir la vérité de joie cachée dans la terre. Ses yeux sont des miroirs de rêves illuminés, subtilement enveloppés d'une frange de noir ensommeillés, qui gardent le reflet des cieux dans leurs abîmes. Tel son corps, tel son esprit. Les aurores ardentes des cieux renaissent glorieusement chaque matin comme des gouttes de feu sur une page d'argent. Dans son jeune esprit encore intouché par les larmes. Telles ces choses belles semblent éternelles et neuves dans l'émerveillement vierge de son âme cristalline. Le bleu inaltérable révèle l'espace de sa pensée. Merveilleuse, la lune flotte à travers le ciel surpris. Les fleurs de la terre poussent et se rient du temps et de la mort. Les mutations magiques de la vie, l'enchanteresse, font la course comme des enfants heureux qui jouent avec les heures souriantes. Si seulement cette joie de la vie pouvait durer sans que la douleur vienne jeter sa note de bronze sur le rythme de ses jours. Regarde-la au chantre, aux yeux prescients. Que la grâce de ton chant permette à ce pur enfant de verser autour d'elle le nectar d'une vie sans chagrin par son cœur d'amour lucide et de guérir par la joie la poitrine usée de la terre et de jeter sa félicité comme un heureux filet. comme grandit l'antique arbre d'abondance tout doré qui fleurit près des ondes murmurantes de l'Alakananda qui court légère. Les eaux amoureuses, bruissantes et babillantes à la splendeur de l'aurore, enlacées dans un rire lyrique aux genoux des filles du ciel qui laissent perler la pluie magique par leurs membres enlunés d'or et leurs longs cheveux de nuages. De même, les horreurs de notre fille sont-elles comme un feuillage gemmé de lumière? Alors, les rivières, il y a un nota bene concernant les rivières du ciel qui fleurit près des ondes murmurantes de l'Alakananda, rivière du ciel qui devient le Gange terrestre. L'arbre céleste de l'abondance donne à chacun le fruit qu'il souhaite. Au cours légère, les eaux amoureuses, bruissantes et palpitantes à la splendeur de l'aurore, enlacées dans un rire lyrique aux genoux des filles du ciel, qui laissent perler la pluie magique par leurs membres enlunés d'or et leurs longs cheveux de nuages. De même, les aurores de notre fille sont-elles comme un feuillage gemmé de lumière? De même, jettent-elles ces rayons de félicité sur les hommes? Sa naissance est une flamme de joie radieuse, et sûrement cette flamme embrasera la terre. Le décret de la mort sûrement la laissera passer sans un mot. Mais trop souvent ici-bas, la mère insouciante laisse à ses élus, dans les mains jalouses du destin, la harpe de Dieu s'éteint, son appel de joie découragé, sombre parmi les bruits malheureux de la terre. Les cordes de la sirène d'extase ne chantent pas ici, ou bien vite sont étouffées dans le cœur humain. Des chants de douleur, nous en avons assez. Permets une fois que ces jours heureux et sans chagrin apportent les cieux ici. Ou faudra-t-il toujours que les grandes âmes subissent l'épreuve du feu sur la terrible route des dieux, armés d'amour et de foi et de joie sacrée? Voyageuse vers la maison de l'Éternel, laisse passer une fois, sans blessure, une vie mortelle. Mais Narad ne répondit pas. Silencieusement, il restait assis, sachant que les mots sont vains et le destin est le Seigneur. Il regardait dans l'au-delà avec des yeux qui voient, puis jouant avec l'ignorance des mortels, comme s'il ne savait pas, il s'est exclamé avec une question: quelle est donc cette haute mission qui presse si vite son char? D'où vient-elle? D'où est-elle venue avec cette gloire dans son cœur et le paradis devenu visible dans ses yeux? Quel dieu soudain a-t-elle rencontré quelle face suprême. Et le roi de répondre. La choca rouge l'a regardé partir. La choca rouge, c'est l'arbre sans chagrin, fleuri une fois par an l'été. La choca rouge l'a regardé partir et maintenant voit son retour. Envolé dans l'air d'une aurore flamboyante, comme un jeune oiseau fatigué de sa branche solitaire, cette pure douceur s'est aventurée, fendant son chemin d'un battement d'ailes rapides pour trouver son propre seigneur. Puisqu'il n'était pas encore venu à elle, sur la terre. Conduite par un appel lointain, son vague vol léger a traversé maint matin d'été et des pays ensoleillés. Quant au reste heureux, elle le regarde au fond de ses yeux. Et ses lèvres charmées n'ont pas encore dit leur trésor. Ô toi, Vierge, qui arrive comblée de joie, révèle le nom qui soudain fait battre ton cœur. Qui as-tu choisi, roi suprême, parmi les hommes? Et Savitri répondit de sa calme voix tranquille, comme l'une qui parle sous les yeux mêmes du destin. Père et roi, j'ai accompli ta volonté. Celui que je cherchais, je l'ai trouvé dans un pays lointain. J'ai obéi à mon cœur, j'ai entendu son appel. Aux confins d'une étendue sauvage et rêveuse, parmi les montagnes géantes de Chalois, et les forêts songeuses dans sa chaumière d'ermite, Dhyumatsena demeure, aveugle, exilé, proscrit, jadis roi puissant. Le fils de Dhyumatsena, Satyavan. Je l'ai rencontré à l'orée solitaire de cette forêt sauvage. Ô mon père, j'ai choisi, c'est fait. Surpris, tous restèrent silencieux pendant un temps. Alors Aswapati a regardé dedans et vu une ombre épaisse flotter sur ce nom. Aussitôt chassé par une prodigieuse lumière, il a regardé dans les yeux de sa fille et dit « Tu as bien fait, j'approuve ton choix. Si tel est tout, alors tout est sûrement bien. S'il y a autre chose, alors tout sera encore bien. » Que cela semble bon ou mauvais aux yeux des hommes, c'est pour le bien seulement que peut œuvrer la volonté secrète. Notre destinée est écrite à double sens. Par les contraintes de la nature, nous marchons vers Dieu. Même dans les ténèbres, nous grandissons encore vers la lumière. La mort est notre route vers l'immortalité. Malheur, malheur, gémissent les voix damnées du monde. Mais quand même le bien éternel conquiert enfin, Narad allait parler, mais le roi en hâte s'est écrié pour conjurer le mot dangereux. Ô chantre de l'ultime, extase, ne prête pas une vision dangereuse à qui est aveugle. d'autant que, par droit inné, tu as vu clair, n'inflige pas à une tendre poitrine mortelle la terrible preuve qu'apporte la prescience. N'exige pas tout de suite la divinité dans nos actes. Il ne s'agit pas là de repiques où vagabondent les nymphes célestes, ni de l'embuscade étoilée du mont Kailash et du Vaikuntha. Kailash, la demeure de Shiva, le dieu destructeur, et Vaikuntha, le ciel de Vishnu, le dieu créateur. Ce sont là des monts abrupts et tailladés que seuls les forts peuvent grimper. Et rares osent même songer à s'y élever. Bien des voix appellent et précipitent par des rocs vertigineux glacés, glissant, coupant sont les chemins. Les dieux sont trop sévères pour la race fragile des hommes. Dans leurs vastes cieux, ils sont exempts du destin et oublient les pieds blessés de l'homme. Son corps qui défaille sous le fouet du chagrin, son cœur qui écoute les pas du temps et de la mort, la route de l'avenir est cachée à la vue des mortels. Ils marchent vers une face voilée et secrète. Poser un seul pas devant est tout son espoir, et il demande seulement un peu de force pour affronter l'énigme de son destin enveloppé de mystère. Guidé, guetté par une vague puissance dans la pénombre, conscient du danger de ses heures incertaines, il protège ses aspirations vacillantes contre ce souffle-là. Il ne sait pas que les doigts atroces se refermeront sur lui dans l'étreinte que nul n'élude. Si tu peux dénouer cette poigne alors et alors, seulement parle, peut-être y a-t-il une échappée du piège de fer. Notre mental nous trompe peut-être avec ces mots, et nous appelons fatalité notre propre choix. Peut-être le destin est notre volonté aveugle. Il dit et Narad ne répondit rien au roi. Alors aujourd'hui, j'arrête le mot du destin de Savitri, livre 6, chant 1 de Sri Aurobindo. Je remercie avec une joie, une immense joie de reconnaissance à Sri Aurobindo et à Douce Mère de lire Savitri aujourd'hui. Merci Sri Aurobindo, merci Douce Mère, Ganga Lakshmi, House of Mother Agenda, Savitri Bhavan.